enfin les saluer de leur part, vous saluer de leur part. Voilà, on va y arriver. Voilà, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Laurent et l'équipe, d'avoir pris ces chants qui étaient plus intimistes. Il y avait vraiment cette intimité avec Dieu, cette proximité. C'est un peu la touche aussi de Laurent. Hein, on est... Mais il y avait quelque chose de particulier dans les chants. On ne s'est pas consulté, hein, Laurent. Hein, on en a parlé juste avant, j'ai vu la liste des chants. Et on ne s'est pas consulté. Mais voilà, ce que j'aimerais vous apporter ce matin, c'est vraiment ce qui va aussi dans le sens de ces chants, de revenir au cœur de la louange, au cœur de l'essentiel, au cœur de cette proximité avec Dieu. Et c'est vraiment le message qui était sur mon cœur. Et ça allait un peu dans le sens de ces chants et de la révélation de qui est Jésus, le fondement. Et j'avais envie de vous partager ça ce matin. Donc merci Laurent de t'être laissé aussi inspiré par ces chants et de ce temps aussi on a passé dans cette présence, cette proximité avec Dieu. Ce matin, j'aimerais parler avec vous d'un texte qui est assez étonnant et particulier, qu'on connaît aussi bien, mais j'aimerais vous entraîner dans un moment marquant dans la vie des disciples, dans leur relation avec Jésus, un moment qui a été fondamental dans leur vie, et c'est cette scène de la transfiguration. Ce moment vraiment avec Jésus. Vous savez que Jésus est présenté dans l'évangile de Marc, c'est ce qu'on va lire tout à l'heure. Jésus est présenté comme le Fils de Dieu, particulièrement comme le Fils de Dieu dans l'évangile de Marc. Et il n'est pas seulement homme, mais il est aussi fils de Dieu, il est Dieu. Et c'est ce qui va se passer aussi dans ce passage. Il y a quelque chose qui va être révélé de qui est Jésus vis-à-vis de ses disciples. Alors ce matin, j'aimerais vraiment revisiter ce texte qu'on connaît bien et au travers de trois actions ensemble qui vont nous aider à méditer ensemble ce texte. Il y a trois verbes que j'aimerais voir avec vous ce matin. C'est le verbe de monter, le verbe de s'attendre et d'attendre, et le verbe de redescendre. Et ça va nous aider aussi à entrer dans ce que vraiment le Seigneur a déposé sur mon cœur pour vous ce matin, et ça va nous aider aussi à avancer dans cette scène. Alors je vous invite à lire le début de ce passage avec ce premier verbe monter, qui serait cette première pensée que j'aimerais vous partager ce matin. Donc c'est dans Marc, chapitre 9, les six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blancheur sur terre qui puisse blanchir ainsi. Voilà, la meilleure lessive au monde ne peut rien faire par rapport à ça. C'est encore rien du tout. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. On va s'arrêter là sur ce premier passage. Et qu'est-ce qui se passe dans ce texte? La première chose qui frappe, c'est que Jésus ne prend pas... Il y en a qui rigolent encore sur ma blague, je pense, de la lessive, ou je ne sais pas. Mais... D'accord, ok, très bien. Okay. La première pensée qui vient, c'est que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il prend avec lui, pas tous ses disciples, il en prend quelques-uns. Ça arrive que Jésus fasse ça de temps en temps. Ce n'est pas habituel, ce n'est pas une norme, mais il le fait de temps en temps. On le voit aussi dans le jardin de Gethsémané, il prend quelques disciples. Ici, il prend Pierre, Jacques et Jean. Et ce n'est pas parce que voilà, c'est les plus âgés, ceux qui ont plus de CV, etc., peut-être c'est les plus proches, peut-être qu'il y a les plus intimes, peut-être qu'ils se sentent le plus concernés, peut-être qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire aussi avec eux. Ce n'est pas parce que Dieu a des chouchous, Dieu aime tout le monde de la même manière, mais il y a quelque chose de particulier qu'il veut imprimer et vivre avec eux à ce moment-là. Et voilà que le texte nous dit qu'il les prend seuls à l'écart sur une montagne. On va s'arrêter sur « seul à l'écart sur une montagne ». Il y a deux mouvements, si on peut dire, là, qui se passent. C'est qu'il les prend à part, seul. Il y a l'idée de les sortir de quelque chose, mais sur une montagne. Il y a l'idée aussi de monter. Il y a l'idée aussi de faire quelque chose. de monter sur la montagne. Donc il y a l'idée, premièrement, de s'extraire de quelque chose, de la vie active à l'écart, de peut-être aussi toutes nos activités, tout ce qu'on fait, du bruit, de la ville, des bonnes choses aussi, d'une famille, des enfants, de la vie et de tout ce qu'ils vous racontent quand vous les revoyez. voilà, donc cette vie-là. Donc il nous extrait, il y a cette idée de s'extraire de cela, mais ça ne suffit pas en fait. Il y a une intentionnalité où il faut monter sur la montagne, il y a un effort à faire. Il faut monter, il faut la gravir, cette haute montagne. D'où ce verbe, cette première pensée de monter. Dans la tradition biblique, la montagne ou les lieux élevés sont des lieux de révélation et de rencontre avec Dieu. Moïse, par exemple, qui va apparaître aussi dans cette scène, et Élie aussi, par exemple, Moïse, il va monter sur le mont Sinaï ou le mont Horeb et il va recevoir il va voir la gloire de Dieu. Il va y avoir aussi la nuée, comme dans ce texte, où Dieu parle au travers de la nuée, la manifestation de Dieu. On voit que Élie aussi, qui va aller sur une montagne, vaincre les prophètes de Baal, c'est le mont Carmel. Vous savez, il y a ce combat avec les hommes les adorateurs de Baal, et que voilà, il y a ce combat, et Dieu remporte une victoire. Ça, c'est au chapitre 18 de 1 Roi. Et on voit que par la suite, il est découragé, donc Dieu l'amène sur la montagne. Et là, au chapitre 19, Dieu passe un temps avec lui. Il y a vraiment un temps où il est découragé, et il y a cette révélation de qui est Dieu. Et on voit qu'il y a ce moment avec Dieu, et Dieu va vraiment le renouveler et va l'envoyer à nouveau. Donc il y a vraiment quelque chose de particulier de l'ordre de la révélation, lors de l'encouragement, lors de quelque chose de fort qui se passe dans une rencontre avec Dieu sur la montagne. Si nous voulons aller plus loin dans notre communion avec Dieu, si nous voulons recevoir une nouvelle révélation, un nouvel élan dans nos vies, il nous faut monter sur la montagne et recevoir un encouragement, recevoir une direction, recevoir une parole de Dieu. Mais c'est un choix. C'est un choix qu'il nous incombe. Et quand on dit choix, c'est qu'on peut passer aussi à côté. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'il faut s'extraire de quelque chose et cette idée qu'il faut entrer dans quelque chose. Et lorsque Jésus prend ses disciples, on peut se dire, mais c'est vrai que pourquoi ils prennent tout ce temps pour aller sur la montagne? Il y avait peut-être tellement d'autres choses à faire, il y avait tellement d'autres choses d'utiles à faire. Des besoins, il y avait peut-être des gens à nourrir, il aurait pu encore multiplier les pains et nourrir les nécessiteux, il y en avait toujours. Il aurait pu passer du temps à guérir des gens, il aurait passé du temps peut-être à prier, à enseigner même, et les disciples l'auraient aidé. Mais pourquoi prendre ce temps à part et monter sur cette haute montagne et perdre ce temps et là, aller sur cette montagne et attendre? Est-ce que ce n'est pas du gâchis? On pourrait penser comme ça. Et on pourrait, moi-même, je pourrais penser comme ça. Des fois, je me dis, mais il y a tellement de choses à faire. Si je ne les fais pas, mais qui va les faire? Et si y a des choses, il y a du travail, il y a du rangement, il y a mon travail, il y a l'administratif, il y a la feuille d'impôt à faire, il y a en tant que jeune, il y a mes devoirs à faire, etc. Il y a tellement de choses à faire. Seigneur, si je prends ce temps avec toi, finalement, qui va faire ça? C'est à moi de le faire. Alors, moi, ce matin, je ne vais pas vous faire culpabiliser, parce qu'on a bien des choses à faire. Et on est dans une société qui nous presse, où tout va vite. Il faut faire tellement de choses. Et je crois que depuis ce début d'année, en 3 mois, je n'ai jamais fait autant de choses. Enfin, je n'ai pas 80 ans pour faire un bilan sur ma vie, mais j'ai vraiment été tellement fait de choses. Mais il y a quelque chose, je pense que le Seigneur veut aussi nous rappeler ce matin. Je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser, mais je crois que quand on fait ce choix, par moment, de dire ce choix que Dieu nous impose, que Dieu nous demande, on sent que c'est vraiment, et qu'on est dans sa volonté, alors il se passe quelque chose de miraculeux. Quand on s'occupe des choses de Dieu et pour Dieu, alors Dieu s'occupe de nous. Dieu peut, par exemple, nous renouveler de manière absolument incroyable. Et on en parlait dernièrement, on était au conseil, tu te rappelles, hein, Patrick ? On disait justement, Patrick partageait des fois qu'avec son poste à responsabilité, avec tout ce qu'il fait, il y a tellement, il commence une journée tôt, il finit tard. Des fois, il n'a pas toujours l'énergie de venir au conseil le soir avec les engagements de l'Église. Et il disait, il nous partageait, mais des fois, je n'ai juste pas l'énergie. Mais je dis, bon, je fais ce choix d'y aller. Et il le dit des fois, incroyable, il est renouvelé, il est en forme, et même toute la semaine, il est parti pour toute la semaine, donc il est rechargé. Et on ne peut pas expliquer ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. Mais il y a quelque chose de là que Dieu veut nous rappeler. Et dernièrement, il y a aussi un témoignage qui m'a frappé dans cette idée de faire un choix et de donner du temps à Dieu et que le Seigneur s'occupe en retour de notre programme et de nos choses. Et là, j'aimerais donner la parole à une jeune. J'ai cité Patrick avant, qui est un peu plus âgé. Et je me demande à Lisa si tu es d'accord de venir partager ce que tu m'as partagé dans la voiture quand je t'ai ramené après une rencontre de responsable du groupe de jeunes, enfin de co-responsable.
Bonjour. Alors, en fait, je vais vous dire un peu le contexte. Moi, je suis au gymnase et je travaille beaucoup ces temps-ci. Enfin, là, j'ai passé au moins 2 mois à beaucoup travailler. J'ai dû faire aussi un gros travail, un gros dossier que j'ai dû rendre, ça compte comme une moyenne et tout. Et c'était beaucoup de travail et beaucoup d'heures de sommeil en moins. Et j'arrivais juste plus. J'avais vraiment, vraiment trop. Et en fait, moi, je suis une éclaireuse, donc ça veut dire, enfin, pour le groupe de jeunes, c'est un peu, si vous voulez, pour ceux qui ne connaissent pas, en dessous des responsables du groupe de jeunes. Et en fait, on a rendez-vous tous les 1 mois ou 2 mois, je ne sais plus, pour un peu organiser, parler du groupe de jeunes ou comme ça. Et moi, j'avais tellement beaucoup de trucs à faire aussi. Je travaillais dans un restaurant et tout. Et je ne pouvais pas aller à ces réunions. Donc, je crois que je suis allée juste une fois. Ouais, je crois, ouais. Et là, en fait, j'avais du temps. J'ai dit à Christian que cette fois-ci, j'irai à la prochaine réunion. Et il se trouve que j'avais un devoir, un travail à faire. Un travail en biologie, c'était une note, un test. Mais je me suis dit, non Seigneur, j'aimerais quand même aller à cette réunion, j'aimerais le faire pour toi, tant pis, j'aurai encore des heures de sommeil en moins, ce sera comme ça, mais au moins j'aurais fait cette chose pour toi, j'aurais allé à cette réunion, on aurait parlé du groupe de jeunes, comme ça. Et voilà. Donc je suis allée à cette réunion, on a parlé, on a fini à 21h, et du coup, je me suis dit, ah voilà, je vais finir encore hyper tard. C'est pas grave, j'aurai la fatigue. Tant pis, moi j'ai fait ça pour toi. Et en fait, après la réunion, j'ai reçu un message sur le groupe de classe qui disait que mon travail, mon test, et il était déplacé à un autre jour. Et du coup, j'étais tellement contente et sous le stress, la fatigue, j'ai pleuré. Et en fait, ça m'a fait tellement du bien de se dire que en fait moi je fais les choses pour Dieu, j'y vais et voilà, peut-être que j'ai trop de travail, mais j'ai pris ce temps, j'ai dit non, je veux faire ce temps pour toi Seigneur, j'aimerais aller à cette réunion de groupe de jeunes. Et là en fait Dieu il a vraiment pris en main ma situation, il voyait mon cœur et il a vraiment du coup après j'ai pu me reposer en rentrant, mais je ne vais pas vous mentir qu'après j'étais le lendemain, j'étais un peu stressée parce que je devais rendre ce travail, mais au moins j'ai pu avoir mes heures de sommeil et j'étais vraiment contente. Ça m'a aussi rempli, cette réunion, de voir aussi mes frères et sœurs en crise, ça m'a fait vraiment du bien. Donc voilà.
Voilà, c'est tellement important, c'est des petites choses, mais Dieu agit, Dieu est puissant, il ne change pas. Dans le deuxième verbe que j'aimerais voir avec vous, il y a monter, mais la deuxième action à laquelle je vous invite ce matin, c'est aussi d'attendre. C'est la suite donc de notre texte. On va donc le deuxième verbe, c'est attendre. On pense peut-être que ça a été très vite en fait. Ils sont montés sur la montagne vite, ça n'a pas pris beaucoup de temps, et puis d'un coup, Jésus est transfiguré. Mais on voit que Luc, par exemple, nous dit que Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, et ils se tinrent éveillés et virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Donc, ça a mis du temps avant que la transfiguration arrive, que la manifestation de la gloire de Dieu se passe. Donc, ça prend du temps. Ils ont dû attendre. Et on voit que les choses ne sont pas venues tout de suite. Et il y a eu besoin de persévérer. Et là, je ne vais peut-être pas vous mettre tout de suite le passage. Je vais peut-être, comme ça, vous ne serez pas déconcentrés. Est-ce qu'on peut juste cacher le texte? Parce qu'on va lire Marc 9, 5 à 8 plus tard. On voit qu'ici, ça a pris du temps. Et il y a besoin de persévérer, d'être dans cette attente de la présence de Dieu. Et quand ça arrive, la gloire de Dieu se manifeste. C'est ce qui s'est passé. Jésus s'est manifesté dans cette gloire et Moïse et Élie leur est apparu. Et le verbe ici pour dire transfiguré, en grec c'est métamorphéo, ça a donné le mot métamorphose. Donc c'est assez inexplicable ce qui s'est passé. Jésus comme ça qui commence à manifester cette lumière, cette gloire, en fait cette divinité quelque part. Et Luc va utiliser un mot assez fort, il va dire ses vêtements devinrent aussi brillants qu'un éclair. C'est le chapitre 9 et le verset 29 dans Luc. Donc Luc utilise un mot grec qui fait référence à un flash, quelque chose de waouh. Ça a dû vraiment être quelque chose d'assez extraordinaire à voir. On ne peut pas tellement expliquer, hein. Ça doit être difficile à réaliser. En tout cas, on voit que dans la littérature apocalyptique juive et chrétienne de l'Église primitive, les êtres angéliques, les êtres célestes étaient décrits en termes d'éclat et de vêtements blancs. Donc c'est bien la divinité de Jésus ici qui est manifestée. C'est comme si on lève le voile sur la gloire de Dieu. C'est le naturel qui est là, mais le surnaturel qui surgit dans le naturel. Vous voyez un petit peu, c'est une situation un peu, on est un peu entre deux mondes. C'est un petit peu comme une jonction entre le ciel et la terre, entre la divinité de Jésus et l'humanité de Jésus. C'est comme si vous imaginez, c'est comme par exemple l'échelle de Jacob, vous vous rappelez, les anges qui montaient et qui descendaient sur terre. On est dans le naturel et le surnaturel. Donc c'est une scène absolument incroyable qui est en train de se passer ici. Et on voit que Moïse donc apparaît et Élie apparaissent. Moïse et Élie. Qui représente ici la loi et les prophètes, et qui discute avec Jésus. Il y a cette discussion, il est dit que dans Luc, il discute au sujet de la mort et de la résurrection de Jésus, de son départ de Jérusalem, de ce qu'il allait faire, du but de sa mission. Ils sont là pour l'encourager. C'est absolument extraordinaire de voir une scène comme ça. Et on voit qu'il est même parlé de l'exode, hein, c'est le mot exode. Quand il est parlé du départ de Jésus, quand il parle du départ, c'est le mot exode. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il vient faire? Jésus, c'est le nouveau Moïse. Jésus, c'est Moïse, c'est celui qui a libéré le peuple d'Israël, qui l'a fait sortir d'Égypte, qui l'a fait sortir de l'esclavage du Pharaon. Et là, on voit que c'est le nouveau Moïse, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui, lui, est venu sur terre pour nous faire sortir de l'esclavage dans lequel on est, du Pharaon de ce monde, qui, lui, veut justement nous rendre esclaves par le travail, par les activités, par les pensées, par tellement de choses. Il veut nous empêcher et veut nous maintenir sous sa coupe. Et voilà que Jésus est ce nouveau Moïse qui vient nous libérer. Amen. C'est extraordinaire. Et c'est ça que les disciples sont en train de vivre avec Jésus et avec les autres disciples. Et on va lire donc juste le texte, Marc 9, 5 à 8. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre, à ce moment, il prend la parole et il dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. » Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et il ne savait que dire. Il ne sait pas trop quoi dire, quoi. Car l'effroi les avait saisis. Ils ont peur. Et une nuée vint les envelopper Et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent alentour, mais ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Alors cette manifestation-là, cet éclair, cette manifestation de la gloire de Dieu, ça les effraie en fait. Ils ont peur. C'est waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable, c'est d'une force. Et ils paniquent. Et qu'est-ce qu'on fait quand on panique? On s'agite. On fait des choses. Parce qu'on est en panique. On n'est pas posé. Et qu'est-ce que Pierre y fait? Notre Pierre, l'impulsif. Le Pierre qui y va. Ben, il faut faire quelque chose. Alors il se dit, ben, on va planter 3 tentes. Il faut, voilà. Et là, il est dit qu'au lieu de rester calme, de rester dans cette présence de Dieu, de s'attendre à Dieu, de s'attendre qu'est-ce qui va se passer, il commence à faire des choses. Et Luc précise et dit de Pierre qu'il ne savait ce qu'il disait. Ça, c'est dans Luc, hein, parce qu'on est obligé de lire les trois passages. Il ne savait ce qu'il disait. Ça, c'est dans 9:33. Au lieu de rester dans l'attente, dans l'écoute, Pierre s'agite. Au lieu d'attendre au pied du Seigneur comme Marie, quelque part, bah, il va s'agiter comme Marthe. Au lieu de rester immobile, il veut bouger. Parce que ce qui se passe à ce moment-là, ce n'est pas terminé en fait. Il y a une manifestation, mais il va se passer encore quelque chose. Mais au lieu d'attendre de voir ce que Dieu va faire, ben lui, il veut poser une tente. Il veut poser des tentes. Mais il doit encore vivre quelque chose avant de s'arrêter et de faire quelque chose. Et on voit que ce n'est pas ça qu'il doit faire. On verra par la suite qu'est-ce qu'ils devront faire. Et on voit qu'il faut que la nuée descende. Il y a encore la nuée qui doit encore se manifester. Et il y a besoin d'attendre, il faut aller jusqu'au bout de ce qui est en train de se passer. Ils ont vu quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est pas terminé. C'est comme le peuple d'Israël. Vous rappelez le peuple d'Israël dans le désert? Il y a la manifestation de Dieu. Il y a Dieu qui descend sur le mont Horeb. Il y a Moïse qui est sur la montagne, le peuple qui attend en bas. Et il y a la manifestation de Dieu. Il y a le mont Horeb qui est en fumée. Il y a les éclairs aussi. On retrouve vraiment la manifestation de Dieu. La nuée aussi. Il y a tout ça sur la montagne. Et le peuple, qu'est-ce qu'il y a? Il a peur. Il est effrayé. Mais ça ne suffit pas. Il faut que Dieu communique quelque chose. Et le peuple doit attendre. Et malheureusement, ils n'attendent pas. Ils font ce qu'il ne faut pas faire. Ils font un veau d'or, etc. Ils se laissent partir dans autre chose. Et il faut que le peuple attende que Moïse redescende avec les 10 paroles. Les 10 paroles de Dieu. Et c'est ce qui va se passer ici, Pierre, avec Pierre. La nuée va se répandre, englober Jésus et englober aussi les disciples. Et c'est à ce moment-là qu'une voix sort de la nuée et dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Waouh, ça valait la peine d'attendre. Dieu a parlé de manière audible. Dieu a dit quelque chose. Le miraculeux ne suffit pas dans nos vies. Il faut aussi entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Dieu veut nous parler, Dieu veut se révéler, Dieu veut dire quelque chose, et c'est concret, c'est conscient, on peut le comprendre. Et cette parole que Dieu donne, en fait, c'est une réponse à une question qui a été posée par Jésus à ses disciples. Et si le texte de la Transfiguration nous dit 6 jours après, c'est pour faire référence à cela. Et si vous regardez le contexte de ce qui est dit avant, en fait, c'était quoi la question que Jésus a posée à ses disciples? Il leur a dit, de ce qu'on dit de moi autour de vous, qui dit-on que je suis? Qu'est-ce qu'on dit sur moi? Qu'est-ce que vous avez entendu? Alors les disciples répondent, il y en a qui disent, ah tu es Jean-Baptiste, d'autres qui disent, tu es Jérémie, ou tu es l'un des prophètes. Et la réponse, elle vient ici. Il faut passer par la révélation, par ce chemin d'intimité pour entendre la voix de Dieu et pour avoir la réponse. C'est tellement important de savoir attendre, tellement de se tenir devant Dieu jusqu'à ce que Dieu ait une parole pour moi. Et je pense que c'est vraiment aussi une pensée de Dieu pour notre Église aussi dans la saison dans laquelle on est. Alors déjà personnellement, bien sûr qu'on peut le vivre personnellement, mais aussi en tant qu'Église. C'est tellement important d'être dans cette attitude aussi d'attente. Parce que on sent qu'en tant qu'Église, actuellement, on vit ces temps de prière, on vit vraiment quelque chose, on sent qu'il se passe quelque chose dans notre Église. On sent que Dieu est en train de se manifester. On voit vraiment, depuis qu'on prend ces temps de prière aussi en tant qu'Église, qu'on cherche Dieu ensemble, qu'on met du temps à part pour chercher Dieu, on voit qu'il se passe quelque chose. On voit un frémissement, on voit vraiment des choses qui se manifestent. Et je le vois dans les entretiens, dans les discussions avec chacun d'entre vous. Je vois ce que Dieu est en train de faire. Mais c'est un moment stratégique et il ne faut pas s'agiter. Il ne faut pas s'agiter. On va avoir une assemblée générale dimanche prochain, on va parler aussi de l'avenir. Et on pourrait s'agiter en disant, mais ah, il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait vite qu'on engage telle personne pour tel but, qu'on commence à aller dans tous les sens, ah, qu'on fasse tel projet. Qu'on plante la tente du projet un tel, du projet un truc. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et je pense qu'il faut ne pas nous agiter. Qu'il faut rester dans cette présence de Dieu et attendre que Dieu nous parle. Et avoir une direction de Dieu. Et je peux vous assurer que c'est vraiment le cœur du conseil aussi. Et le cœur, c'est vraiment notre cœur. On cherche Dieu et on veut se mettre à son écoute. Parce que ce qui va faire la différence, c'est la parole de Dieu dans notre vie. C'est la direction de Dieu. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui a fait la différence dans la vie de Pierre. Ce qui va faire la différence dans notre vie, c'est la révélation de Dieu, c'est la direction de Dieu, c'est la parole de Dieu. On voit que Pierre, dans la deuxième épître de Pierre, il fait référence à cette expérience qu'il a vécue. Ça l'a marqué. Il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Parce que ça s'est imprimé dans sa vie, dans la vie de Pierre. Et il dit, mais voilà, moi je ne base pas ma vie sur des argumentaires, sur des fables, mais je base sur la révélation de qui est Christ. Et ça c'est fondamental dans notre vie. Ça a permis à Pierre ça a fondé son ministère pour toute sa vie. Ça a été un homme incroyable qui a prêché, qui a annoncé l'évangile, parce qu'il y avait cette certitude, il avait entendu la voix de Dieu dans sa vie. Et il a pu même donner sa vie pour ceux qu'il croyait. Il est allé jusqu'au bout, il a donné sa vie. Parce que voilà la force et la puissance de la parole de Dieu et de la révélation de Dieu dans notre vie. Et lorsqu'on a cette révélation, personne ne peut vous l'enlever. Personne ne peut vous l'enlever. On peut vous dire, mais tu sais, tu crois en ça, mais Jésus c'est un mythe, c'est une histoire pour les enfants. Non, parce que ça ne se base pas sur ce que les gens disent, mais sur ce que Dieu vous a dit. Et quand vous cherchez la présence de Dieu, pour vous, pour votre vie, et que Dieu vous parle personnellement, alors c'est quelque chose qui va vraiment être fort dans votre vie, pour votre ministère. Et là, non seulement il y a cette révélation de qui est Jésus, mais il y a cette injonction qui arrive juste après, écoutez-le, écoutez-le. Écoutez-le. C'est vrai que dans Deutéronome 18, il était annoncé que Dieu enverrait quelqu'un, suscitera quelqu'un, un prophète, quelqu'un qui parlera et qui parlera de la part de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre de tes frères, un prophète comme toi. Vous l'écouterez. Et on voit que c'est l'accomplissement en Jésus de cette parole. C'est tellement important de l'écouter. Et quand on dit écouter, c'est dans le sens d'obéissance. Vous voyez ce que je veux dire ? Écouter quelqu'un, écouter la voix de quelqu'un, c'est lui obéir. C'est plus qu'une exhortation ici, c'est une sommation. Écoutez-le, écoutez-le. C'est, il y a tout en lui. Il y a toute la divinité en lui. Toute parole qui sortira de la bouche de Jésus, que Jésus te dira à toi personnellement, écoute-la, parce que tout est là. Cherche cette parole de Dieu pour ta vie. Cherche cette direction de Dieu pour ta vie. Cherche la parole de Jésus pour ta vie. C'est ça qui va faire la différence dans ta vie. Parce que tout découle de ça. Quand Dieu a dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. C'est une injonction, c'est une question de vie ou de mort. Là, c'est la même chose. Écoutez Jésus. On a besoin, dans la vie dans laquelle on est aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, d'avoir une parole de Jésus qui nous fonde et qui nous permet d'avancer. On ne peut pas faire l'économie de cela. Après avoir monté et avoir entendu et avoir reçu, qu'est-ce qui reste à faire? Il faut redescendre. Et c'est ce qui est dit dans le texte. On voit que les disciples, ils sont en train de redescendre de la montagne et Jésus leur demande de ne pas partager ce qu'ils ont vécu. Stop. Vous gardez ça pour vous. Et ils discutent avec eux et puis ils sont en train de parler de la résurrection des morts. Les disciples posent des questions sur Élie, etc. Parce qu'il vient d'Élie, forcément. Enfin, il y a plein de questions qui sont... Et on se rend compte, les disciples n'ont toujours pas tout compris, en fait, ce qu'ils ont vécu. Il y a toute une partie des prophéties qu'ils n'ont pas encore compris. Le Jésus souffrant, ils n'ont pas encore tout compris. Ils ont cette révélation de qui est Jésus, mais tout n'est pas clair encore. Cette révélation qu'ils ont reçue, elle doit encore mûrir dans leur vie. Et de la même manière, il faut d'abord recevoir cette révélation dans nos vies et la laisser mûrir. Et par la suite, ça va agir, ça va prendre forme. Ne parlons pas toujours tout de suite à tout le monde de nos révélations que nous avons dans l'intimité, la proximité avec Dieu. Il faut du temps. Il faut que je fasse mes expériences. Il faut que la révélation descende dans ma vie. Il faut que cette révélation porte du fruit dans ma vie. Et quand ce sera porteur, alors à ce moment-là, je pourrai aller le prêcher. La révélation, c'est de qui est Jésus, ou même des révélations que Dieu vous donne personnellement dans votre vie. C'est comme la conception d'un enfant. C'est discret au début, ça ne se voit pas, c'est dans le secret. Puis une fois que le bébé est là, et dehors, c'est encore fragile. Et il faut le protéger. Donc il faut savoir quand partager les révélations que nous avons. Et si on le dit trop tôt, c'est comme si on dilapide, c'est comme si on gaspille. Et cela ne produit pas le fruit qu'il devrait produire. Alors, ce n'est pas évident de vivre ces moments d'intimité, de révélation avec Dieu et de redescendre dans la vie de tous les jours. Il y a un décalage. Il y a un décalage entre les grandes choses que Dieu nous a révélées, qu'on aimerait partager tout de suite, et le Seigneur nous dit non, tu gardes ça pour toi. Pas tout de suite. Donc la redescente, ce n'est pas toujours facile. Il y a une deuxième chose qui n'est pas facile quand on redescend de la montagne, mais il faut passer par là, c'est qu'il y a quelque chose à faire après. Et ça, ce n'est pas été évident pour les disciples. J'imagine que Jésus, là, il a dit « Stop, c'est fini, maintenant on redescend. Quoi ?» Quoi ? Mais ils auraient voulu rester, sans doute. Ils étaient bien dans cette présence de Dieu. Et quand on est bien dans cette présence de Dieu, ils disent « Mais... » Et Jésus dit « Non, il faut redescendre. Là, il y en a qui souffrent en bas et je dois aller faire quelque chose. Il faut qu'on puisse aller libérer ces personnes. Il faut qu'on puisse aller annoncer la libération, l'évangile. » Et il leur dit, allez, on y va, on redescend. Et des fois, on aimerait bien rester sur la montagne. Et on voit que quand il redescend, la première chose que Jésus fait, c'est qu'il libère ce jeune homme. C'est le début du texte, vous pourrez lire plus tard à la maison. On voit qu'il descend, il y a la foule qui arrive, donc les besoins sont là, et on amène un jeune homme qui est possédé et que Jésus libère. Donc tous ces dons, toutes ces révélations, ce n'est pas juste pour nous, pour notre confort. mais c'est pour faire les œuvres de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu. Des fois, on veut rester dans cette présence de Dieu parce que ça nous fait du bien, parce qu'on est bien, parce qu'on aime bien qu'on prenne soin de nous, parce que ce n'est pas toujours facile la vie qu'on mène. Mais Dieu nous invite aussi à redescendre de la montagne pour libérer et pour prêcher l'Évangile. Et c'est fondamental de comprendre cela, de comprendre tout cela. On ne peut pas faire les œuvres de Dieu, l'œuvre de Dieu, vivre le mandat missionnaire de Dieu pour l'Église si on n'est pas passé par ces étapes, si on n'a pas pris du temps avec Dieu pour monter sur la montagne, si on ne s'est pas extrait de notre vie, si on n'a pas pris ce temps d'attendre et de recevoir ce que Dieu veut nous dire. On ne peut pas dire qui est Jésus et prêcher Jésus si on ne sait pas réellement qui il est. On ne peut pas être témoin de quelque chose auprès des autres si on n'a pas été témoin directement de qui est Dieu dans notre vie. C'est fondamental. La révélation de qui est Jésus, de ce qu'il nous dit, est le fondement de l'Église missionnelle qui part, qui va. Alors ce matin, je voulais vous partager cette pensée toute simple, mais à la fois tellement défiante pour nos vies. Seigneur, je veux manquer aucune de ces étapes. Quand tu me demandes de me mettre à part, je me mets à part. Quand tu me demandes d'attendre, j'attends. Et j'attends jusqu'à ce que je reçoive une parole de toi. Je ne me mets pas en mouvement par la chair, voulant faire les choses par peur et par crainte. Vous savez, il n'y a rien de pire que de faire les choses par crainte ou par cœur. Que ce soit en tant qu'église, on a peur, on va manquer, il faut absolument faire ça, ou en tant que personnellement. J'attends jusqu'à ce que je reçois une parole de toi. Et quand tu m'invites à redescendre, je redescends. Même si c'est compliqué, je le fais et j'y vais. Tu m'invites à sortir d'un certain bien-être pour entrer dans la rudesse de ce monde, dans la rudesse de la difficulté de ce monde. Mais je redescends dans ce monde, dans cette société, dans mon environnement différent, avec un fondement solide, avec une révélation solide. Tu m'invites à entrer même dans le combat spirituel. Tu as une mission, tu veux faire quelque chose au travers de moi. La difficulté est là, le combat est là. Mais tu m'invites, avec la force et avec cette révélation, à le vivre et à passer à travers cette difficulté et à voir ta gloire s'incarner de la révélation qui est sur la montagne, de qui tu es. Tu m'invites à le prêcher, à le communiquer autour de moi et à le vivre. Alors oui, Seigneur, ce matin, je veux y aller et je veux t'obéir. Et je veux t'écouter. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies. Merci parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce que tu as fait avec Pierre, Jacques et Jean, tu veux le faire avec chacun d'entre nous. Seigneur, c'est pas... Tu ne veux pas le faire avec une élite. Tu ne veux pas le faire avec ceux qui sont peut-être parfaits ou qui sont soi-disant bien. Mais tu veux le faire avec ceux qui ont un cœur ouvert pour le faire. Et tu vois nos cœurs ce matin. Et qu'il n'y a personne qui ne peut pas vivre ce qu'on a partagé ce matin. Tout le monde ici peut le vivre. Mais tu prends avec toi ceux qui en veulent. Ceux qui en veulent le plus. Ceux qui sont concernés. Ceux qui veulent aller, merci Seigneur que ce matin tu parles à chacun d'entre nous, nous dire Seigneur, ce matin vois mon cœur, je veux entrer dans cette réalité-là avec toi. Je ne sais pas comment, mais tu vas me guider. Je ne sais pas si j'aurai la force, mais je veux te dire oui ce matin. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à rester dans la prière.